Extrait des chroniques du Hors-Temps, La phobie de la forêt sombre. Quand l'humanité apprit que l'univers était une forêt sombre, cet enfant qui avait allumé un feu de camp et crié autour de lui pour manifester son existence, l'éteignit aussitôt et se mit à frissonner de peur dans la pénombre, craignant désormais la moindre étincelle. Les tout premiers jours, même les communications mobiles furent interdites, et la plupart des bases de télécommunications terrestres furent mises à l'arrêt forcé. Ces dispositions, qui auraient sans nul doute provoqué un chaos social à une époque antérieure, furent au contraire largement comprises et acceptées par la population. Avec le retour de la raison, les communications mobiles furent peu à peu rétablies, mais un contrôle strict continua à s'exercer sur les émissions électromagnétiques, et les transmissions sans fil devaient désormais opérer à des fréquences très basses. Quiconque dépassait les limites imposées pouvait être déclaré traître à l'humanité. Les hommes étaient pourtant conscients que ces réactions étaient absurdes et disproportionnées. Le pic de transmission des signaux électromagnétiques vers l'espace avait eu lieu à l'ère des signaux analogiques, à une époque où les fréquences des télévisions et des radios étaient très hautes. Mais l'humanité, une fois entrée dans l'ère du numérique, les communications étaient pour la plupart transmises via des câbles optiques et électriques, et même les fréquences des communications numériques sans fil demeuraient plus basses que celles des communications analogiques. Par conséquent, le nombre de rayonnements électromagnétiques disséminés dans l'espace avait rapidement chuté, si bien qu'avant la crise, certains chercheurs s'étaient même inquiétés que la Terre devienne de moins en moins repérable pour nos amis extraterrestres. Les ondes électromagnétiques constituaient en outre le médium le plus primitif et le moins efficace pour transmettre des informations dans l'univers. Les signaux électromagnétiques s'atténuaient et se dégradaient à toute vitesse dans l'espace, et la grande majorité des ondes radio peinaient à dépasser 2 années-lumière. Seul le type de transmission de puissance stellaire découverte par EONG était en mesure d'envoyer des signaux susceptibles d'être interceptés par les guetteurs d'un autre monde. Mais avec les progrès des technologies humaines, 2 autres méthodes de transmission firent leur apparition. L'une s'appuyait sur les neutrinos et l'autre sur les ondes gravitationnelles. Ce fut la seconde qui deviendrait le principal système de dissuasion de la Terre contre Trisolaris. L'impact de la théorie de la forêt sombre sur la civilisation humaine était immense. L'enfant accroupi à côté des cendres du feu, jadis optimiste et extraverti, était devenu solitaire et taciturne. À bord de l'âge de bronze, Nombre avait attribué la disparition soudaine des signaux électromagnétiques terrestres à une invasion trisolarienne du système solaire. Le vaisseau avait alors accéléré en direction d'un système possédant des planètes telluriques situées à 26 années-lumière. Mais 10 jours plus tard, l'âge de bronze avait brusquement reçu un message par onde radio provenant du poste de commandement de la flotte spatiale terrestre. Ce message avait également été envoyé à l'espace bleu qui avait fui de l'autre côté du système solaire. Il expliquait ce qui s'était passé sur Terre, précisant que les humains avaient réussi à mettre en place un dispositif de dissuasion solide face à la menace trisolarienne. L'ordre était donné au vaisseau de rentrer immédiatement. Le message indiquait enfin que la Terre avait pris de grands risques pour envoyer cette transmission et qu'elle ne serait pas répétée. L'âge de bronze n'avait pas osé croire trop vite à ce message, n'excluant pas que ce soit un piège tendu par les nouveaux occupants du système solaire. Cependant, animé de l'espoir qu'il soit authentique, le vaisseau avait tout de même cessé d'accélérer et demandé plusieurs fois confirmation à la Terre. Aucune réponse n'était venue. La Terre maintenait le silence radio. Au moment même où l'âge de bronze s'apprêtait à entrer dans une nouvelle phase d'accélération, l'incroyable s'était produit. Un intellectron trisolarien s'était déployé en faible dimension sur le pont du vaisseau, établissant un canal de communication quantique entre l'appareil et la Terre. Tout ce qui avait été annoncé dans le précédent message avait obtenu confirmation. L'équipage de l'âge de bronze avait appris que, comptant parmi les derniers rescapés d'un terrible massacre, ils étaient désormais devenus des héros pour l'humanité. Toute la Terre attendait impatiemment leur retour. L'état-major de la flotte avait en outre décerné aux simples soldats comme aux officiers la plus haute décoration militaire. L'âge de bronze avait immédiatement fait demi-tour. Il se trouvait alors à une distance de 2300 unités astronomiques du Soleil, bien au-delà de la ceinture de Kuiper, mais encore loin du nuage d'Oort. Comme il approchait déjà de sa vitesse de pointe, le processus de décélération lui avait coûté une quantité importante de combustible et il avait dû adopter une vitesse de croisière plus lente pour rentrer dans le système solaire. Le chemin du retour lui avait pris 11 années. Alors qu'ils approchaient enfin de la Terre, les passagers de l'âge de bronze apercevaient maintenant devant eux un petit point blanc qui ne tarda pas à s'agrandir. Le Gravité, le vaisseau de guerre envoyé à leur rencontre pour les accueillir. Le Gravité était le premier vaisseau interstellaire à avoir été construit après l'ultime bataille. Les vaisseaux de ce type possédaient des formes de moins en moins standardisées. La majorité d'entre eux, en particulier les plus massifs, étaient en réalité composés de plusieurs modules qui pouvaient s'assembler en différentes configurations. Mais le Gravité faisait exception. C'était un cylindre blanc, d'une régularité telle qu'il en paraissait presque factice, un peu comme si un super logiciel de modélisation graphique avait dessiné dans l'espace une figure basique, un élément né de l'idéalisme platonicien plutôt qu'une entité réelle. Si les passagers à bord de l'âge de bronze avaient pu voir les antennes à ondes gravitationnelles construites sur Terre, ils auraient deviné que le Gravité en était une réplique parfaite. Et de fait, sa coque entière était une antenne à ondes gravitationnelles, un transmetteur d'ondes capable d'émettre au cours de sa navigation interstellaire. Comme les antennes terrestres, celles du Gravité pouvaient à tout moment diffuser des messages dans n'importe quelle direction du cosmos. Ces équipements appartenaient au système humain de dissuasion de la forêt sombre contre Trisolaris. Après encore un jour de vol, l'âge de bronze, escorté par le Gravité, entra en orbite géosynchrone, puis rejoignit lentement le spatioport. Depuis le vaisseau, l'équipage pouvait voir une vaste zone oxygénée où se pressait une foule compacte qui leur fit penser à une cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques ou à un pèlerinage à la Mecque. Les vaisseaux glissèrent au milieu d'une tempête de neige multicolore. Des bouquets de fleurs lancés par la foule venus les accueillir. Les passagers de l'âge de bronze cherchaient du regard leurs proches parmi cette masse humaine agglutinée sur les deux côtés de l'appareil. En voyant ces myriades d'yeux emplis de larmes, ils se laissèrent aller à pousser des cris de joie. Après une dernière secousse, l'âge de bronze s'immobilisa enfin. Le commandant adressa un rapport à l'état-major sur l'état de son vaisseau, proposant de laisser quelques hommes à son bord. On lui répondit que la priorité était que tous retrouvent leurs proches au plus vite et qu'il n'était pas nécessaire que des sentinelles demeurent sur l'appareil. Un colonel de la flotte monta à bord, accompagné de quelques hommes chargés d'assurer le relais. Ils tombèrent dans les bras de l'équipage en versant de chaudes larmes. Il était difficile de deviner à leurs uniformes à quelle flotte ils appartenaient, mais le colonel expliqua que la flotte solaire était à présent une force unifiée et que tous les héros de l'âge de bronze ayant pris part à l'ultime bataille deviendraient eux aussi des piliers de cette nouvelle armée. « Nous consacrerons le restant de notre vie à partir à la conquête de Trisolaris et nous ouvrirons un deuxième système solaire pour la colonisation humaine », lança le colonel. Certains répliquèrent que l'espace était effrayant et que leur souhait était de rester définitivement sur la terre ferme. Le colonel répondit que cela était tout à fait possible, après tout. Ils étaient des héros et ils seraient libres de choisir ce qu'ils feraient désormais de leur vie. Mais après un peu de repos, ils changeraient certainement d'avis. Le colonel affirma pour sa part qu'il était impatient que ce glorieux vaisseau prenne un nouveau départ. Les passagers de l'âge de bronze commencèrent à débarquer. Les officiers et les soldats franchirent un long couloir qui les mena à la zone oxygénée. Leurs yeux étaient éblouis par la luminosité régnante. Contrairement au vaisseau, l'air ici était extraordinairement pur, aussi frais que celui du ciel après une grosse averse. Devant le décor de la planète bleue, les hurrahs de la foule emplissaient le vaste espace. À la demande du colonel, le commandant commença à faire l'appel. Le colonel insista pour que celui-ci soit effectué deux fois, afin de s'assurer que tous les membres de l'équipage aient bien quitté le vaisseau. Soudain, le silence se fit. La foule qui les entourait continuait à se mouvoir, mais sans un bruit. La voix du colonel devint plus sonore. Son visage était encore éclairé d'un sourire, mais, au milieu de ce calme inquiétant, son timbre se fit aussi tranchant que la lame d'une épée. « Je vous informe à présent que vous êtes tous exclus de l'armée. Vous n'appartenez plus à la flotte solaire. Jamais le déshonneur dont vous avez souillé notre flotte ne pourra être effacé. Vous n'êtes pas autorisé à retrouver vos proches, et eux n'ont d'ailleurs aucune envie de vous revoir. Vous êtes la honte de vos parents, de vos compagnes et de vos compagnons, qui ont pour la plupart entamé des procédures de divorce. Si la société n'a pas banni vos enfants, ceux-ci ont néanmoins grandi durant ces 10 dernières années dans l'humiliation et ne ressentent que de la haine à votre égard. Vous allez être transféré au tribunal international de la flotte solaire. » Quand le colonel eut fini de parler, ses hommes et lui s'éloignèrent rapidement. Au même moment, la foule disparut et les alentours furent plongés dans l'obscurité. Quelques faisceaux de projecteurs balayèrent la salle, révélant des soldats lourdement armés qui les encerclaient. Répartis en plusieurs endroits de la salle et embusqués sur des structures en gradins, leurs armes étaient pointées sur l'équipage. Certains des membres de l'âge de bronze se retournèrent et remarquèrent que les bouquets, eux, étaient réels. Flottant au milieu d'un océan de fleurs, le vaisseau ressemblait désormais à un gigantesque cercueil attendant d'être mis en terre. Les chaussures magnétiques portées par les membres de l'équipage cessèrent de faire effet, et ils se retrouvèrent à flotter en apesanteur, sans piliers auxquels se tenir, comme des cibles immobiles. Une voix froide leur cria : « Que tous ceux qui sont armés déposent leurs armes. Collaborez, ou nous ne pourrons pas garantir votre intégrité physique. À partir de maintenant, vous êtes en état d'arrestation. Vous êtes reconnus coupables d'homicide et de crimes contre l'humanité. »